Ils parlèrent alors en mangeant, et peu de temps après, Éomer reprit la parole.
« Ce sera bientôt l'heure prévue pour notre départ, sire, » dit-il. « Dois-je ordonner que l'on fasse sonner les cors ? Mais où est donc Aragorn ? Sa place est vide et il n'a pas mangé. »
« Nous nous apprêtons au départ, » dit Théoden. « Mais que l'on fasse savoir au seigneur Aragorn que l'heure est proche. »
Le roi et sa garde, avec Merry à son côté, descendirent par la porte de la Ferté jusqu'au lieu de rassemblement des cavaliers sur la pelouse. Main d'entre eux était déjà en selle. La compagnie serait fort nombreuse, car le roi ne laissait qu'une petite garnison à la Ferté, les autres étant conviés au ralliement à Edoras. De fait, 1000 lances étaient déjà parties à la nuit, mais il y en aurait 500 autres pour chevaucher avec le roi, des hommes des Vaux et des prairies de l'Westfold pour la plupart. Les coureurs silencieux se tenaient quelque peu à l'écart en une compagnie ordonnée, portant arc, épée et lance. Ils étaient vêtus de capes gris foncé et leurs capuchons couvraient à leurs casques et têtes. Leurs chevaux étaient forts et avaient fière allure, malgré leurs poils rudes. Et l'un d'eux était sans cavalier, celui d'Aragorn, que l'on avait amené du nord. Il répondait au nom de Rohirrim. Nul reflet d'or ni de pierrerie, nul ornement ne se voyait dans toute leur sellerie ou sur leur harnais. Pas plus que leurs cavaliers ne portaient d'insigne ou d'emblème, sinon à l'épaule gauche, où leur cape était agrafée par une broche d'argent en forme d'étoile rayonnée. Le roi enfourcha sa monture, Snowmana, et Merry se tint auprès de lui sur son poney. Lui se nommait Stiba. Éomer passa bientôt les portes avec Aragorn à ses côtés et Albarad portant sa longue hampe emmaillotée de noir, ainsi que deux hommes de haute stature, ni jeunes ni vieux. Ils étaient si semblables, les dignes fils d'Elrond, que peu de gens arrivaient à les distinguer. Les cheveux sombres, les yeux gris, leur visage d'une beauté elfique, tous deux revêtus de brillantes mailles sous des capes de gris argent. Derrière eux venaient Legolas et Gimli. Mais Merry n'avait d'yeux que pour Aragorn, tant le changement qu'il percevait en lui était frappant. Comme si, en l'espace d'une nuit, le poids de nombreuses années était tombé sur son front. Ses traits étaient sombres, son visage cendreux et las.
« Je suis grandement troublé, sire, » dit-il en se tenant à l'étrier du roi. « J'ai entendu d'étranges paroles, et j'entrevois au loin de nouveaux périls. J'ai longuement cheminé en pensée, et je crains de devoir changer mes desseins. Dites-moi, Théoden, vous partez à l'instant pour Dunharth. Dans combien de temps y serez-vous ?
Il est maintenant une bonne heure après-midi, dit Éomer. Nous devrions arriver au fort dans 3 jours avant la nuit tombée. La pleine lune sera alors vieille de 2 jours, et le rassemblement ordonné par le roi se tiendra le lendemain. Il est impossible de faire plus vite si les forces du Rohan doivent être ralliées.
Aragorn marqua une pause avant de répondre. « 3 jours, » murmura-t-il, « et le rassemblement ne fera que commencer. Mais je vois qu'il ne peut désormais être hâté. » Il releva la tête et on eût dit qu'il avait pris une décision. Son visage devint moins soucieux. «
Dans ce cas, sire, une nouvelle résolution s'impose, pour moi-même et pour les miens, avec votre permission. » Nous devons suivre notre propre route sans plus nous cacher. Fini pour moi la clandestinité. Je chevaucherai dans l'Est par la voie la plus rapide et je prendrai les chemins des morts.
« Les chemins des morts ?» s'exclama Théoden tremblant. « Pourquoi en parler ?»
Éomer se retourna et dévisagea Aragorn et Merry eut l'impression de voir pâlir les cavaliers qui étaient assez proches pour entendre.
« S'il est vrai que ces chemins existent, » dit Théoden, « leur entrée est à Dunharth, mais elle est interdite aux vivants. »«
Hélas, Aragorn, mon ami, » dit Éomer, « j'avais espéré que nous irions ensemble à la guerre. Mais si vous cherchez les chemins des morts, l'heure est venue de nous séparer, et il y a peu de chances que nous nous revoyions jamais sous le soleil. »«
Je prendrai néanmoins cette route, » dit Aragorn. Mais je vous dis ceci, Éomer. Nous pourrions bien nous retrouver sur le champ de bataille. Toutes les armées du Mordor dussent-elles se dresser entre nous.
« Vous ferez comme vous l'entendrez, monseigneur Aragorn, » dit Théoden. « Peut-être est-ce là votre destin, foulé d'étranges routes que d'autres n'osent emprunter. Cette séparation m'afflige et ma force s'en trouve affaiblie. Mais je dois suivre à présent les chemins de montagne sans plus m'attarder. Adieu. »
« Adieu, sire, » dit Aragorn. « Allez au-devant d'un grand renom. Adieu, Merry. Je vous laisse en de bonnes mains, meilleur que nous ne l'espérions en pourchassant les orques jusqu'à Fangorn. Legolas et Gimli poursuivront la chasse avec moi, je l'espère, mais nous ne vous oublierons pas.
Au revoir,
dit Merry. Il ne trouva rien d'autre à dire. Il se sentait très petit, perdu, démoralisé par toutes ces sombres allusions. La bonne humeur inextinguible de Pipin lui manquait plus que jamais. Les cavaliers étaient prêts, et leurs chevaux donnaient des signes d'impatience. Lui-même ne demandait qu'à lever le camp. Théoden s'adressa bientôt à Éomer, et il leva une main et cria d'une voix forte, et sur son cri, les cavaliers se mirent en branle. Ils franchirent le fossé et descendirent dans la combe, prenant résolument vers l'est, afin de rejoindre une piste qui longeait le bord des collines sur un mille ou deux, puis bifurquait au sud et disparaissait dans les montagnes. Aragorn se mit en selle et chevaucha jusqu'au bord du fossé, d'où il observa leur longue descente dans la combe. Puis, il se tourna vers Al-Balad. « Je vois partir trois hommes que j'aime. Le plus petit, non le moins, » dit-il. « Il ne sait pas vers quelle fin il s'achemine, mais s'il le savait, il irait quand même. Ce sont des gens de petite stature mais de très grande valeur que ceux du comté. » dit Al-Balad. Ils n'ont pas idée de notre long labeur pour la sécurité de leurs frontières, mais je ne leur en tiens pas rigueur. Et voici que nos destins sont liés, dit Aragorn. Mais ici, hélas, il faut nous séparer. Allons, je dois manger un peu, puis il nous faudra nous aussi partir sans tarder. Venez, Legolas, Gimli, j'ai à vous parler pendant que je déjeune. Ils regagnèrent ensemble la Ferté. Mais une fois attablés dans la grande salle, Aragorn resta quelque temps silencieux et les autres attendirent. «
Allons, » dit enfin Legolas. « Parlez, soulagez votre cœur et libérez-vous de l'ombre. Qu'est-il arrivé depuis l'aube grise qui nous a vu revenir dans ce sinistre endroit ?»«
Une lutte pour moi, encore plus sinistre que la bataille de la Ferté au corps, » répondit Aragorn. « J'ai regardé dans la pierre d'Orthanc, mes amis. »«
Vous avez regardé dans cette maudite pierre de sorcellerie ?»
s'exclama Gimli. La crainte et l'étonnement se lisaient sur ses traits.
« Avez-vous dit quoi que ce soit à... lui ?» Même Gandalf redoutait cette confrontation.
« Vous oubliez à qui vous parlez, » dit sévèrement Aragorn, et ses yeux étincelèrent. « Que craignez-vous que je lui dise ? N'ai-je pas ouvertement proclamé mon titre devant les portes des Doras ?
Non, Gimli, dit-il d'une voix adoucie, et la sévérité quitta son visage, et ils virent un homme aguerri aux peines de maintes nuits sans sommeil. Non, mes amis, je suis le maître légitime de la pierre, et j'avais non seulement le droit, mais aussi la force de m'en servir, du moins le pensais-je. Le droit m'était acquis, la force me fut tout juste suffisante. Il respira profondément. La lutte a été rude, et j'en ressens encore la fatigue. Je ne lui ai adressé aucune parole, et j'ai fini par lui arracher la pierre pour l'assujettir à ma volonté. Cela seul, il aura peine à le souffrir. Et il m'a vu. Oui, maître Gimli, il m'a vu, mais sous un autre aspect que celui que vous me connaissez. Si cela lui sert, j'aurais mal fait, mais je ne le crois pas. Le fait de savoir que j'existe et que je parcours la terre lui a porté un dur coup, m'est avis, car jusqu'à présent, il l'ignorait. Les yeux à Orthanc n'ont pas vu à travers l'armure de Théoden, mais Sauron n'a pas oublié Isildur et l'épée d'Elendil. Or, à l'heure de ses grands desseins, l'héritier d'Isildur et l'épée lui sont révélés, car car je lui ai montré la lame reforgée. Il n'est pas encore si puissant que rien ne puisse lui faire peur. Non, le doute le ronge sans cesse.
Mais son empire n'en est pas moins grand, dit Gimli. Et maintenant, il se dépêchera de frapper.
Le coup précipité s'égare souvent, dit Aragorn. Il faut presser notre ennemi sans plus attendre qu'il se décide. Voyez-vous, mes amis, après m'être rendu maître de la pierre, j'ai appris bien des choses. J'ai vu une grave menace qui doit bientôt surprendre le Gondor par le sud et qui détournera une grande partie de la force qui défend Minas Tirith. Si elle n'est pas rapidement contrée, j'estime que la cité sera perdue d'ici 10 jours.
« Sa perte est donc certaine, » dit Gimli. « Car quelle aide pouvons-nous envoyer là-bas, et comment pourrait-elle y parvenir à temps ?»«
Je ne puis envoyer aucune aide. Je dois donc m'y rendre moi-même, » dit Aragorn. « Mais il n'est qu'une route à travers les montagnes qui puisse m'amener aux régions côtières avant que tout soit perdu. Ce sont les chemins des morts. »«
Les chemins des morts ?» dit Gimli. « Ce nom est de sinistre augure. » Et il ne plaît guère aux hommes du Rohan, à ce que je constate. Les vivants peuvent-ils suivre une telle route sans y laisser leur vie? Et même si vous la passiez, que pourrait un si petit nombre contre les assauts du Mordor?
Les vivants n'ont jamais pris cette route depuis la venue des Rohirrim, dit Aragorn, car elle leur est fermée. Mais en cette heure funeste, l'héritier d'Isildur peut l'emprunter, s'il l'ose. Écoutez. Voici les paroles que m'ont transmises les fils d'Elrond de leur père à Fandeval, le plus grand de tous les maîtres en tradition. Mandez à Aragorn de se rappeler les mots du voyant et les chemins des morts.
Et que sont donc les mots du voyant ? Demanda Legolas.
Ainsi parla Malbeth le voyant, au temps d'Arvedui, dernier roi de Fornost, dit Aragorn. Partout sur le pays s'étend une ombre longue, tendant vers l'occident ses ailes ténébreuses. On tremble dans la tour sur les tombeaux des rois. Le destin se dirige et les morts se remuent, car l'heure est arrivée pour le peuple parjure. À la pierre des Rec ils seront réunis et entendront le cri du cor dans les collines. Qui les appellera sonnera leur sortie. Du crépuscule gris à ces gens oubliés, l'héritier de celui à qui ils ont juré. Du nord il descendra dans sa nécessité, il passera la porte et les chemins des morts.
Une voix obscure à n'en pas douter, dit Gimli, mais non moins obscure que me semblent ces vers.
Si vous voulez mieux les comprendre, alors je vous prie de m'accompagner, dit Aragorn. Car c'est la voie que j'entends suivre. Je n'y vais pas de gaieté de cœur, seule la nécessité m'y contraint. Ainsi, je ne voudrais pas que vous me suiviez, sinon de votre propre chef, car il vous en coûtera beaucoup de peine et de peur, et peut-être davantage.
Je vous suivrai même sur les chemins des morts, qu'importe la fin à laquelle ils conduisent, dit Gimli.
Je viendrai aussi, dit Legolas, car je ne crains pas les morts.
« J'espère que le peuple oublié n'aura pas oublié comment se battre, »
dit Gimli.
« Sinon, je ne vois pas pourquoi nous les dérangerions. »«
Nous le saurons assez vite, si jamais nous parvenons à Erech, » dit Aragorn. « Mais leur serment brisé était de combattre Sauron. Ils devront donc se battre s'ils désirent la quitter. Car à Erech se dresse encore une pierre noire apportée de Númenor, dit-on, par Isildur. » Et Isildur la plaça sur une colline, et là, au commencement du Gondor, le roi des montagnes lui jura allégeance. Et quand Sauron reparut et qu'il revint en force, Isildur appela les hommes des montagnes à tenir leur serment. Mais ils se parjurèrent, car ils avaient rendu un culte à Sauron durant les années sombres. Lors, Isildur dit à leur roi, « Tu seras le dernier de vos rois. » Et si l'Ouest devait l'emporter sur ton maître noir, j'appellerai sur toi et sur les tiens cette malédiction, de ne trouver jamais aucun repos que votre serment ne soit accompli. Car cette guerre traversera les années sans nombre et vous serez de nouveau appelés avant la fin. » Et ils fuirent devant la colère d'Isildur et n'osèrent se battre aux côtés de Sauron. Et ils se cachèrent dans des replis secrets des montagnes et n'eurent plus commerce avec les autres hommes. Et ils dépérirent lentement dans les collines incultes. Et la terreur des morts sans sommeil plane sur la colline d'Erek et sur tous les lieux qu'il hantait autrefois. Mais telle est la voie que je dois suivre, puisqu'il n'est personne pour m'aider chez les vivants. » Il se leva. « Venez !» s'écria-t-il tirant son épée, et sa lame étincela dans la pénombre de la Ferté.
« À la pierre d'Erek, je cherche les chemins des morts. Que ceux qui le veulent me suivent. »
Légolas et Gimli ne répondirent pas, mais ils se levèrent et sortirent avec Aragorn. Sur la pelouse attendaient, silencieux et immobiles, les coureurs encapuchonnés. Légolas et Gimli remontèrent. Aragorn bondit sur Rohirrim. Puis, Albarad éleva un grand corps qui résonna dans la gorge de Helm. Et alors ils s'élancèrent, dévalant la combe en un bruit de tonnerre, sous les regards interdits des hommes restés dans la Ferté et le fossé. Et cependant que Théoden cheminait dans les collines, la compagnie grise fila à travers les plaines et parvint à Edoras dès le lendemain après-midi. Elle ne s'y arrêta qu'un court moment avant de s'engager dans la vallée et gagna ainsi Dunhart à la tombée de la nuit. La dame Éowyn les accueillit et elle se réjouit de leur venue, car c'était la première fois qu'elle voyait des hommes de la stature des Dúnedain et des beaux-fils d'Elrond. Mais ses regards étaient surtout pour Aragorn. Et lorsqu'ils soupèrent avec elle, ils se parlèrent, et elle sut tout ce qui s'était passé depuis le départ de Théoden, dont elle n'avait encore reçu que des échos hâtifs. Et lorsqu'elle entendit parler de la bataille de la gorge de Helm et du massacre de leurs ennemis, et de la charge de Théoden et de ses chevaliers, ses yeux étincelèrent. Mais elle dit enfin « Messire, vous êtes fatigué, et vous irez trouver vos lits et tout le confort qu'il est possible d'offrir dans la hâte. Demain, nous aurons mieux à vous proposer. » Mais Aragorn dit « Non, madame, ne vous dérangez pas pour nous. Si nous pouvons dormir ici et rompre notre jeûne au matin, ce sera assez. Car ma mission est des plus urgentes, et il nous faudra partir aux premières lueurs. » Elle lui sourit et dit « Dans ce cas, je vous remercie d'avoir fait un si long détour pour donner des nouvelles à Éowyn et venir lui parler dans son exil. »
Nul homme ne verrait là une perte de temps, répondit Aragorn. Mais je n'aurais pu venir ici, madame, si la route que je dois prendre ne me conduisait à Dunhart.
Et elle répondit comme si ces mots la contrariaient. Eh bien, seigneur, vous faites fausse route, car le Val de Hart ne donne aucun accès à l'est ou au sud, et vous feriez mieux de retourner par où vous êtes venu.
« Non, madame, dit-il, je ne fais pas fausse route, car j'ai marché dans ce pays avant que vous naissiez pour l'embellir. Il est une route hors de cette vallée, et je vais la prendre. Demain, je chevaucherai par les chemins des morts. »
Alors elle le regarda comme dévasté, et elle blêmit. Et pendant un long moment, elle ne dit plus rien, et tous restèrent silencieux.
« Mais Aragorn, dit-elle enfin, votre mission est-elle donc de chercher la mort? Car c'est tout ce que vous trouverez sur cette route. Ils ne tolèrent pas le passage des vivants. »
« Ils le toléreront peut-être dans mon cas, dit Aragorn. Quoi qu'il en soit, je vais m'y hasarder. Aucune autre route n'est propice. »
« Mais c'est de la folie, dit-elle, car voici des hommes de prouesse et de renom que vous devriez conduire non dans les ombres, mais à la guerre, où l'on a besoin d'hommes. Je vous supplie d'attendre mon frère et de partir avec lui, car tous nos cœurs seront alors en joie et notre espoir pourra revivre. »
« Ce n'est pas de la folie, madame, répondit-il, car je prends la route qui a été choisie. Mais ceux qui me suivent le font de leur propre chef, et s'ils désirent aujourd'hui attendre et partir avec les Rohirrim, ils sont libres de le faire. Or moi, je prendrai le chemin des morts, seul s'il le faut. »
Alors ils se turent et mangèrent en silence. Mais les yeux de la dame ne quittaient plus le visage d'Aragorn, et les autres purent voir le profond tourment qui l'agitait. Enfin, ils se levèrent pour prendre congé d'elle, et l'ayant remercié de sa prévenance, partirent se reposer. Mais comme Aragorn arrivait à la case où il devait loger avec Legolas et Gimli, déjà passé à l'intérieur, la dame Éowyn vint à lui et l'appela. Se retournant, il l'aperçut telle une lueur dans la nuit, car elle était vêtue de blanc, mais ses yeux flamboyaient.
« Aragorn, lui dit-elle, pourquoi vous engagez sur cette route mortelle ?»«
Parce qu'il le faut, répondit-il. C'est la seule chose qui me permette d'espérer pouvoir jouer mon rôle dans la guerre contre Sauron. Je ne choisis pas exprès les chemins du péril, Éowyn. Si je devais aller là où mon cœur réside, c'est dans le nord que j'irais, dans la belle vallée de Fandeval. » Elle reste un moment interdite comme pour méditer le sens de ses mots. Puis soudain, elle posa la main sur son bras.
« Vous êtes ferme et résolu, lui dit-elle. Ces qualités qui assurent la gloire aux hommes. »
Elle marqua une pause.
« Seigneur, reprit-elle, si vous devez partir, laissez-moi chevaucher à votre suite. Je n'en puis plus d'être terré dans les collines. Je veux affronter le danger et tenter la fortune des armes. »
« Votre devoir est auprès des vôtres, » répondit-il.
« Trop souvent m'a-t-on parlé de devoir, » s'écria-t-elle. « Pourtant ne suis-je pas de la maison d'Eorl, une fille guerrière et non une garde malade ? J'ai assez veillé sur les pas vacillants d'un vieillard. Puisqu'il ne vacille plus, semble-t-il, ne puis-je maintenant vivre ma vie comme je l'entends ?»«
Rares sont ceux qui y parviennent en tout honneur, » répondit-il. « Mais quant à vous, madame, n'avez-vous pas accepté de gouverner le peuple jusqu'au retour du Seigneur ? Si vous n'aviez pas été choisi, quelque maréchal ou capitaine l'aurait été à votre place, et il ne pourrait simplement abandonner sa charge, qu'elle lui pèse ou non.
« Serais-je toujours choisi ? » dit-elle avec amertume. « Serais-je toujours laissé derrière quand les cavaliers partiront, pour garder la maison pendant qu'ils se couvrent de gloire, et veiller à ce que le repas et le lit soient prêts à leur retour ?»
« Un jour viendra bientôt, peut-être, où nul ne rentrera, » dit-il. « Alors, il y aura besoin de courage sans gloire, car nul ne se souviendra des exploits accomplis dans l'ultime défense de vos foyers. Mais ces exploits n'auront pas été moins vaillants pour être restés sans éloge. » Et elle répondit,
« Tout cela revient à dire, vous êtes une femme et votre place est à la maison. Mais quand les hommes seront morts au combat, dans l'honneur. Vous pourrez brûler avec elle, car les hommes n'auront plus besoin d'un toit. Mais je suis de la maison d'Eorl, et non une femme servante. Je puis monter à cheval, je sais manier l'épée, et je ne crains ni la souffrance ni la mort. »
« Que craignez-vous donc, madame ? » demanda-t-il.
« Une cage, » dit-elle. « Vivre derrière des barreaux, jusqu'à ce que l'habitude et la vieillesse s'en accommodent. Et que l'espoir d'accomplir de hauts faits soit au-delà de tout souvenir et de toute envie.
Vous me conseillez pourtant de ne pas tenter la route que j'ai choisie, parce qu'elle est périlleuse.
Un conseil n'est jamais rien que cela, lui dit-elle. Or, je ne vous conseille pas de fuir le danger, mais d'aller où votre épée s'attirera gloire et triomphe. Je ne veux pas voir une chose que j'estime haute et excellente, gaspillée sans raison.
Moi non plus, madame, dit-il. « C'est pourquoi je vous dis restez, car vous n'avez rien à faire dans le sud. »«
Ceux qui vont avec toi non plus, » fit-elle soudain. « Ils y vont simplement parce qu'ils ne veulent se séparer de toi, parce qu'ils t'aiment. »
Puis elle se détourna et disparut dans la nuit.